Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Louis-François, on reçoit Luc Poirier aujourd'hui, entrepreneur très connu en immobilier au Québec. Pourquoi on veut le recevoir au Dérangeant?
Bien, c'est un gars qu'on connaît médiatiquement, je veux dire en image beaucoup, mais on connaît pas vraiment le fondement de ses business et toute la structure en arrière. Moi, ça me fascine. Je trouve que c'est quand même gros ce qu'il fait. Semble travailler avec peu de gens. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très, très intéressant pour les entrepreneurs en nous aussi.
Puis il n'a pas peur de parler d'argent.
On écoute ça à l'instant.
Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Les
dérangeants! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des dérangeants. Ici Carlo Coccaro à l'animation. Les dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Astérix de Québécois. Les dérangeants, c'est quoi? C'est six entrepreneurs de tous horizons qui parlent de leurs défis, leurs défaites, leur succès, leur stress. Et c'est des Dominique Gagnon, des Marie-Claude Duquette, des Anne Martel et avec moi aujourd'hui, Étienne Crevier. Salut Étienne.
Salut Carlo.
Louis-François Marcotte, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci.
Les gars, aujourd'hui, on reçoit Luc Poirier pour notre épisode. Mais juste avant, comment ça va?
Ça va bien.
Qu'est-ce qui se passe chez vous?
Ben écoute, moi, je vais faire une petite montée de lait, en fait, contre les foutues subventions gouvernementales.
Oh!
Là, j'ai reçu, en fait...
Une subvention?
Oui, c'est ça. Clairement. Des tabarnaks. une subvention, un chèque gratuit, là. Non, en fait, j'ai fait les impôts, puis là, j'ai m'envoie mon relevé, en fait, de la T2. Et là, ils mettent un petit flyer, c'est pour le PCAN. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Sur, dans le fond, des subventions de transformation numérique jusqu'à 15 000
$. C'est Peak and Pie. C'est tarte au PACAN.
Ça rapporte moins, ça.
Je peux continuer.
C'est Programme canadien d'accès au numérique, le PCAN. Puis, il y en a tout le temps qui sortent. Puis, il faut que tu ailles sur les sites web des gouvernements pour les voir. Des fois, ils t'envoient un flyer, mais il y a une date de tombée. Là, c'est comme appliqué avant le 28 février ou avant le 1er avril. Puis, t'es comme, excuse-moi si le timing de ma business ne fit pas avec tes budgets gouvernementaux.
Peut-être que tu voudrais que le gouvernement s'adapte à ta business.
Bien, moi, c'est une enveloppe hostie, puis tu es capable, puis tant que tu as de l'argent, puis c'est premier arrivé, premier servi, mais des dates de tombée, puis là, de faire un concours entre les entreprises de qui a la meilleure demande de subvention, mais je trouve que c'est contre-productif, en fait.
Mais tu vois, je vais surfer là-dessus, moi, Étienne. J'ai déjà dit dans un ancien épisode de saison 2, je haïssais les subventions. Je comprends. Moi, pour moi, être entrepreneur, c'est
jusqu'à
pas...
temps que t'en ailles, c'est ça?
Non, mais attends, c'est là où je m'en vais. Je comprends. Plein d'entrepreneurs ont des entreprises qui marchent à cause des subventions. Puis une partie de la job d'entrepreneur, c'est d'aller chercher des subventions. Pour moi, être entrepreneur puis avoir une entreprise, c'est d'avoir un bon produit puis de le vendre, puis avoir faire ses frais. J'ai lancé AiderSonEnfant.com, qui est un organisme, dans le but de me dire, OK, bien, on veut offrir des ressources gratuites, fait qu'on va avoir besoin d'un peu de soutien public, soutien de subvention, pour créer des ressources pour le grand public. Puis c'est... Je regrette d'avoir fait ça. Ça va, on le fait, puis on fait des belles choses, puis tout ça, mais c'est une bataille constante. On se met des bâtons dans les roues à chaque deux secondes. Ah, vous pouvez pas avoir de subvention, vous vendez des choses. Mais oui, mais on s'autofinance en vendant un produit, parce que c'est ça de l'entrepreneuriat, même si c'est un organisme. Puis là, ça devient un obstacle pour avoir une subvention. J'haïs les subventions, je suis dans ton camp, Étienne. Pour la première fois en 6 saisons, je suis dans ton camp.
Bien écoute, pour moi, une subvention, ça fait c'est un respirateur artificiel pour un mauvais produit.
Oui, à quelques exceptions près. Tu sais, les domaines...
Je vous arrête, là. C'est l'hiver, il fait beau. La bonne nouvelle, là, pour moi, là, à ce moment-ci de l'année, là, c'est le ski, la motoneige, être dehors, l'ensoleillement.
Hey, tu travailles quand là-dedans, toi?
Jamais, mais je voulais juste vous donner du bonheur dans votre discussion de subvention, parce que là, c'était gris. Fait que ça, c'est mon comment ça va de cette semaine, c'est
non, mais
j'aime
c'est...
l'hiver.
OK.
Très bon point. Moi, honnêtement...
Il faut pas que tu ailles plus loin, parce que c'est positif.
J'aime ça. Amen.
Non, j'haïs les subventions. Moi, je suis d'accord, Étienne. Je lâcherai pas ça. On se retrouve dans 30 secondes avec Luc Poirier.
L'entrevue de la semaine, une présentation du Quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca.
Il est un des entrepreneurs les plus populaires de sa génération. Il a une histoire de vie super fascinante et des succès retentissants. Luc Poirier, merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Luc, Moi, il y a plein d'entrepreneurs dans mon entourage qui me parlent de toi, qui m'ont dit au fil des années, Luc Poirier, c'est comme mon modèle, mon idole entrepreneuriale. Est-ce que tu as vu un changement dans les 10 dernières années sur la façon dont les gens te percevaient?
Ben oui, en fait, c'est sûr, plus que ça avance, plus ma crédibilité augmente. Puis les coûts que je faisais plus jeune sont plus gros maintenant, même si c'est le même principe. Donc oui, avec le temps...
Puis comment tu reçois ça, cette admiration-là, puis ces louanges-là?
Ça change pas grand-chose dans ma vie. Là. Je reste terre à terre, puis...
Oh, mais l'ego, là, c'est sûr, c'est le fun pour l'ego.
Bah, plus ou moins. Peut-être. Mais ça change rien.
Tu as dit que ça change rien, quand
même. Non, mais je creuse.
Tu dis les coups que je faisais avec le modèle que tu as, c'est toujours le même modèle. Tu l'as dit.
En fait, j'ai toujours fait des bons coups, là, surtout dans l'immobilier, mais là, ils sont plus gros. Là. Tu sais, c'est comme, il y a plus de zéro.
Oui.
Mais c'est le même.
Mais c'est quoi le modèle?
Ben, c'est d'acheter surtout, là, d'acheter pas cher, puis créer de la valeur. Je suis un créateur de valeur. Il y en a qui sont des gestionnaires, comme ils achètent des blocs, puis ils achètent des blocs tranquillement, puis un jour, ils ont 500 portes, exemple, puis c'est ça leur modèle d'affaires. Moi, c'est que j'achète quelque chose souvent que les gens n'aiment pas. Soit c'est contaminé, le zonage n'est pas facile, comme quand j'ai acheté le Montreal Children, mais il y avait un zonage institutionnel.
Okay.
Fait que de le changer en résidentiel, c'est pas facile à Montréal. Heureusement, je l'ai fait avant Valérie Plante, sinon je suis pas sûr. Okay, je pense que je suis encore en train de...
T'as encore le terrain.
Ouais, c'est ça, exact. Donc, fait que je crée de la valeur en changeant le concept du terrain qu'il va avoir dessus. Donc, c'est un peu ça ma recette, en parlant de
j'aime
recette.
J'aime ça, j'aime le principe.
Fait que, grosso modo, moi, j'aimerais ça t'emmener, en fait, dans ton enfance, tu viens pas d'un milieu qui a de l'argent. Je pense que tu as grandi dans un HLM, en fait, puis tu as fondé ton entreprise en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, qui t'a permis de te lancer en affaires puis commencer à investir puis à faire des bons coups? Ouais, ça a été quoi tes premiers moves?
En fait, en 2003, c'est mon holding qui a été créé, mais avant ça, j'ai eu plein d'autres compagnies. Avant ça, là, en 95, j'avais un magasin d'informatique, puis là, c'est un deuxième. J'ai eu le plus gros magasin de logiciels au monde qui était à Place Versailles.
Plus gros magasin de logiciels au monde.
En 98, ouais. Wow.
Il y avait 8 logiciels à l'époque.
Ça, non, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de logiciels. Puis on achetait, mettons, une boîte avec, mettons, Windows à l'époque 95. Il y avait 22 disquettes que tu mettais une après l'autre pour faire l'installation.
Comment vous êtes devenu le plus gros magasin de logiciels au monde?
Ben, comment je suis devenu? Bonne question.
C'est quoi la recette du succès de ce...
Ben, en fait, j'ai souvent été le plus gros dans ce que je faisais. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai parti un BBS. Un BBS, c'est un Bulletin Board System, c'est l'ancêtre d'Internet. Puis j'avais créé ça parce que je voulais aller à l'université, puis je voulais pas travailler, puis ça me permettait de faire beaucoup d'argent en faisant rien. Puis finalement, je suis devenu le troisième plus gros en Amérique. Fait que j'étais gros, là.
Puis ça, on faisait de l'argent comment avec un BBS?
Un BBS, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet passe par les réseaux de Bell, Rogers, etc. Mais à l'époque, il n'y avait rien de ça. C'était plus l'armée américaine, puis les universités, les grosses universités, Oxford, Harvard, tout ça. Puis moi, j'ai parti un serveur chez moi, qui est la même chose qu'un serveur Bell aujourd'hui. Puis les gens se connectaient par ligne de téléphone avec des modems. Tu sais, des petites boîtes. Là.
14-4, 28-8.
Oui, exact. Là, ça faisait... avant de se loguer, là, un peu comme les fax. Puis les gens se loguaient, mais pour se loguer, fallait qu'ils me payent l'argent. Puis moi, c'était des mandats poste généralement ou des chèques. Puis à chaque fin de semaine, quand je revenais de l'université, parce que j'allais à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, quand je revenais, ma boîte était pleine d'argent.
Avec peu d'entretien.
C'est une non, tout voulait. Était fait à l'externe. Moi, je suis pas un informaticien.
Et en fait, t'es-tu un gars fort en informatique?
Non, pas tout. Zéro.
Je vois dans tout ce que tu disais là, je me disais, c'est vraiment un geek, ce gars-là.
Non, les gens riaient de moi. Mon frère Mario, il dit, tout est un imposteur. C'était moi qui avais le plus gros magasin d'informatique indépendant au Québec, puis je connaissais rien. En fait, la clé de tout business, c'est de savoir bien s'entourer. T'es pas obligé de connaître, mais t'engages les gens qui s'y connaissent, puis ça va bien aller.
Fait que toi, t'avais vu l'opportunité, tu voyais que c'était en croissance.
Exact.
T'allais chercher des amis, j'imagine, ou du monde.
Ben, en fait, des connaissances, puis tout ça. Puis un BBS, ça se gérait par d'autres gens qui... En fait, c'est souvent des gens qui étaient sur le bien-être social, mais que leur vie était devant l'écran. Comme aujourd'hui, on a plein de
ça. Tu partageais ta richesse avec eux, j'imagine, les chèques que tu remets.
Même pas. Faisais ça gratuitement. Puis, non, non, ils s'amusaient, tu sais.
T'as accumulé combien, tu sais, parce que... On entend ça, on se dit, OK, as-tu fait 100 000 dans son année ou il faisait 23
millions?
À l'époque,
c'était à peu près ça. Là. C'était pas des gros chiffres comme aujourd'hui. Là. Mais tu sais, 100 000 dans ce temps-là, c'est peut-être 300 000 aujourd'hui. Ben oui, ouais. 300 000, tu sais, quand t'es jeune, quand t'as 18-19 ans, c'est de l'argent. Là.
Puis avec ça, t'as fait quoi? T'as-tu dépensé? Je pense que tu roules en voiture de luxe depuis longtemps.
Ouais,
là.
À 16 ans, j'avais une Porsche 924 Turbo. À 15 ans et demi, j'avais même pas mon permis, il était dans ma cour, puis j'attendais, j'avais hâte d'avoir mon permis.
Fait que t'es tombé dans le piège de la consommation avec l'argent.
Ouais, tout à fait. Surtout depuis que j'ai ma femme.
Non, elle était pas là, t'avais 15 ans. Là. Mais est-ce que tu t'en es gardé assez pour repartir? Clairement, oui, mais...
Ben oui, parce que veux pas, on a parti un magasin d'informatique éventuellement, donc j'ai eu besoin de cet argent-là. Après ça, un deuxième, un troisième, un centre de distribution de produits informatiques par la suite. Fait que tout ça, ça prend de l'inventaire, ça prend des fonds. Fait que oui, en fait, tout ça, je réinvestissais pas mal tout le temps. Puis là, à 19 ans, 19 ans et demi, j'ai commencé à acheter de l'immobilier. Puis c'est vraiment à partir de l'immobilier que là, j'ai trippé sur l'immobilier. En fait, j'ai acheté mon premier duplex commercial parce que le propriétaire, c'est en 92. Puis en 95. Puis le marché avait tombé en 92 ans de l'immobilier. Fait qu'en 95, mon propriétaire a fait faillite, donc celui-là qui avait le duplex. Puis la banque m'a appelé, puis finalement, j'ai acheté de la banque l'immeuble. Puis je voulais pas aller dans l'immobilier. C'est juste que j'étais là, je voulais pas perdre ma place, mon gagne-pain. Puis là, je me suis rendu compte rapidement que mon locataire du haut payait toutes les dépenses. Fait que mon loyer, il me coûtait rien. Et là, j'ai dit, waouh, c'est dommage cool l'immobilier. Fait que là, c'est ça, j'ai continué.
En même temps, c'est un rachat par une faillite. Fait que c'est un premier bon coup payant.
Ouais, pour vrai, ouais.
Fait que ça te donne le goût de continuer, tu sais.
Exact.
Ben, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un excellent point que François fait. Je t'écoute parler, puis on entend beaucoup Warren Buffett, Charlie Munger qui dit, dans le fond, essaie pas de faire des coups de circuit, essaie juste de jamais perdre. Puis que ça soit du magasin d'informatique, du BBS ou aujourd'hui, as-tu eu des mauvais coups? As-tu eu des quasi-faillite ou est-ce que ça t'a coûté ta chemise?
Ben, j'ai failli faire faillite en manque de liquidité souvent dans ma vie, même en 2016, en décembre. Puis c'est pas parce que j'ai pas de valeur, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une différence entre valeur puis liquidité. Hein. C'est deux affaires complètement différentes.
C'est tellement le quotidien des entrepreneurs, moi, ça. Là,
exact.
On vit ça tous les jours.
Ben, c'est
là.
Ça. Donc, j'ai failli à plusieurs...
2016, tu valais combien à peu près?
Pour donner 2016, c'était pas si gros que ça. C'était peut-être 20 millions, mettons. Okay. Peut-être un peu plus, là, mais...
Puis, ouais. Puis malgré tout, t'as eu des problèmes de liquidité.
Oui. Oui, parce que j'attendais de l'argent en novembre qui n'est pas arrivé, qui est arrivé seulement en février. En décembre, la banque m'appelle. Là, je venais de dire à ma femme, écoute, cette année, j'ai pas besoin de cadeaux, là, chez lui, chaque semaine et tout ça. Finalement, là... J'étais avec dans l'auto.
Toi non plus, ma femme, t'en as pas besoin de cadeau.
T'en auras pas.
J'étais avec dans l'auto, la banque appelle, elle dit, Monsieur Poirier, vos marges sont pleines, les cartes de crédit sont pleines, il n'y a plus d'argent dans aucun compte. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quoi faire. Fait que là, j'ai dit, ben, laissez-moi vous rappeler demain. Là, je raccroche, ma femme, elle est fâchée après moi.
Tu m'as caché.
Ouais, c'est à peu près ça. Fait que là, elle pleurait le soir, elle dormait plus, elle pensait qu'on allait tout perdre. Fait que t'as bien beau.
Toi, tu pensais quoi à ce moment-là?
Comment non, moi, j'étais sûr de mon affaire. Là. En fait,
oui.
Okay. Moi, une de mes grandes forces, c'est que j'ai peur de rien. Là. Puis, tu sais, dans ma vie en général.
Ouais, c'est ça.
Ouais, exact. Puis, je suis super calme. Puis, je sais que je suis positif. Fait que je sais que ça va s'arranger. Puis, ça s'est arrangé. Là. En février, on a reçu quelques millions.
Fait que la banque a été patiente pendant 2-3 mois?
Non, j'ai emprunté à des amis.
OK.
Ouais, j'ai emprunté à des amis temporairement.
Oui, mais ça, c'est quand même intéressant. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, on chaîne tout le temps.
Ah oui.
On a tout le temps l'air, rien à bas. La lecture que les gens ont, nous, c'est on est en contrôle. Parce que souvent, on ne démontre pas la crainte ou les mauvais moments parce qu'on patine en arrière.
À l'intérieur, ça...
On roule en solide.
Ah oui, c'est sûr.
Fait que l'image qu'on projette n'est pas relative à ce qu'on vit comme entrepreneur. Puis ça, c'est intéressant de le donner. Parce que tu dis, là, il faut que j'aille voir un chum pour te demander de l'argent.
Et lui, on pense que tu vaux des dizaines de millions.
Honteux. Oui, puis non, parce que dans mon entourage, les gens savent que c'était temporaire. Okay. Tu sais. L'argent s'en venait. Puis ça m'est arrivé, ça fait 15 ans que je suis avec ma femme actuelle, puis ça m'est arrivé trois fois, là, tu sais, c'est quand même... Puis tu sais, là, on a entendu parler de ma grosse vente à 240 millions, mais ça, tu sais, on a notarié le
240 dans tes poches non plus.
Non,
c'est ça aussi qu'il faut imaginer, là.
Mais t'sais,
non, mais tu sais...
Non, c'est moins, pas 240
c'est pas 2 piastres non plus sur
c'est ça. Merci de relativiser Louis-François.
Je voulais juste ramener les gens.
Mais c'est vrai, t'as raison, les gens pensent pas à l'impôt. T'sais, le gouvernement a mis beaucoup d'argent dans nos vols, mais ils vont aller me chercher 50% de cet argent-là. Là, t'sais, c'est ça.
Fait, grosso modo, tu t'es lancé dans l'immobilier pour fait, justement de ton magasin d'informatique, t'as acheté du duplex commercial, t'as eu la piqûre. Tu fais de l'immobilier temps plein depuis combien de temps?
Ben en fait, depuis ce temps-là, j'avais 19 ans et demi, 20 ans à peu près. Là, j'en ai 48, donc ça fait 28 ans que je fais ça. J'ai eu un paquet de blocs appartements, donc de 20 ans jusqu'à 24 ans, j'ai acheté 300 portes, donc j'avais 300 portes d'appartements que je louais. J'avais des petits strips commerciaux comme le duplex, mais j'avais aussi deux autres petits centres d'achat. Puis, à un moment donné, je me suis tanné. J'étais tanné des locataires, la régie du logement.
Il paraît que c'est le fun de gérer des colocataires.
Ah, j'adore ça. Ben oui. Moi, le samedi matin, là, ma toilette, elle coule, malade.
Ben oui, hein? Mais c'est vrai. C'est vraiment c'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis tanné. J'ai tout vendu à 24 ans et demi, à peu près. Puis là, j'ai pris une couple d'années sabbatiques. J'ai bâti ma maison. J'ai voyagé. Je me suis amusé. Puis là, j'aimais l'immobilier, mais pas les locataires. Fait que je suis retourné dans la construction neuve. Fait que là, j'ai fait des buildings à Montréal, au centre-ville, sur Peel, sur une Lévesque, etc. Puis là, par contre, j'avais une centaine d'employés parce que je construisais des gros buildings de 20 étages, par exemple.
Mais là, j'étais allé chercher ta licence RBQ? T'étais-tu... Ouais. OK, tout ça, t'es vraiment changé de vertical.
Ben, puis j'achetais le terrain, je faisais les plans avec des architectes, j'allais chercher le permis, je faisais les ventes, je construisais, je livrais. Donc, je faisais la totale.
Ça doit être super rentable.
Oui, c'est rentable.
Tu parlais de création de valeur tout à l'heure, là, c'est exactement ça.
Oui,
tu pars de terrain tu vends un condo ou un...
Tout à fait.
Ça doit être mais ultra
c'était pas rentable. Moins demandant qu'avoir des portes.
Non, non, c'était plus demandant. C'est une garderie, là. Tu sais, quand t'as 160 employés en construction, là, le vendredi matin, là, il en manque la moitié, là. C'est comme
ça. À midi et quart, ils sont tous plus là.
Oui, puis ça se bat entre eux, ça se vole entre eux. Écoute, c'est une garderie, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, je veux plus construire. Fait que là, j'ai tout vendu ça. Mais en fait, j'ai arrêté de construire. Puis là, j'ai été dans le terrain. Fait que là, le terrain, ben, ça a des bons puis des mauvais côtés. Ça prend beaucoup de cash. Donc, c'est pas évident parce que ça rapporte pas à chaque mois.
Mais tu peux pas commencer ta carrière
non,
avec le terrain.
Non, là. Tu peux pas. Non. Fait que tu le fais à la fin quand t'es, on va dire, écœuré, mais quand t'as tout fait le reste, puis là, tu veux une qualité de vie. Tu sais, en fait, c'est pour ça.
Oui. Fait que. T'as d'équité, puis t'as des liquidités, comme tu dis.
Oui, mais.
C'est ça en fin de. Pas en fin de parcours. J'aime pas ça dire en fin de parcours, excuse-moi.
Non, non, section. On annonce la fin de ton parcours, Luc.
La fin de parcours de Luc.
En primeur.
Oui, c'est ça. Mais ça prend du cash, tu sais.
Oui, oui, absolument.
Tu peux faire du terrain, comme tu disais, avec deux ans.
Sois patient, parce que tu sais jamais quand est-ce que. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du terrain, 2-3 ans, ça prenait pour démarrer un projet. Aujourd'hui, c'est 5-6-7 ans, puis parfois plus, là.
Oui, hein?
Tu sais, ben, Norval, c'est un bon exemple. Ça a pris 7 ans et demi. Puis en même temps, j'en avais acheté 3, puis c'est le seul que j'ai
qui a
fait.
Qui a levé, vraiment.
Ouais, j'en ai deux autres dans ces mêmes années-là qui n'ont pas levé encore.
Est-ce qu'ils vont lever?
Oui, oui, c'est sûr, 100%.
T'sais, mais il est sûr de son plan, là.
C'est ouais, 100%.
Même taille à peu près de valeur? Ou?
Oui, en valeur, oui. Plus petit, mais ça vaut plus cher du pied carré.
Moi, ouais. J'avais lu un article, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais que c'était genre vendu à 13-14 pieds, 13-14 piastres du pied carré.
C'est pas cher.
Puis que c'était pas cher parce que ça valait jusqu'à 25, je sais pas quoi. Pourquoi t'as vendu à rabais?
Ben, un paquet de raisons, mais grosso modo, parce qu'il y a un marché d'acheteurs qui s'en vient bientôt, parce que là, on le voit, le marché, il ralentit. Puis je voulais être liquide, avoir de l'argent cash pour faire des... Tu sais, je perds de l'argent sur la valeur, mais je vais en faire en achetant des bons deals dans les 2-3 prochaines années.
C'est un coup d'opportunité, finalement.
Oui, exact, exact.
Puis, en fait, on entend le cas récent, justement, de la grosse transaction est un bon exemple. C'était Luc Poirier et ses partenaires. C'est qui, ça, ces partenaires-là?
Ben, j'ai deux partenaires. Donc, c'est deux partenaires de la Rive-Sud. Ils sont en construction. Eux autres, quand ils ont embarqué dans le
projet... Ils venaient de la garderie aussi ou la construction?
Non, oui. Ben, eux, ils ont leurs propres employés et tout, là. Puis, eux, ils ont embarqué dans les projets à l'époque parce qu'ils voulaient construire les terrains.
OK.
Oui, parce que c'est pas d'être résidentiel, ça.
Oui, absolument. En fait,
on a toujours été patient à côté de toi.
Oui, absolument.
Puis à quel point est-ce que dans tes projets, tu vas chercher des partenaires tout le temps ou t'aimes ça être tout seul?
Bien, je suis pas mal tout le temps avec des partenaires, je vous dirais. Ouais. Puis je suis bien là-dedans, ça va bien. Généralement, je contrôle mes deals aussi.
Ça veut dire quoi, je contrôle mes deals?
Bien, tu sais, comme exemple, j'ai un projet de la briqueterie, j'ai 82%, tu sais. Fait que oui, j'ai des partenaires, mais ils sont petits, ils sont minoritaires. Fait que, tu sais, j'aime
pourquoi
ça.
Pourquoi partager un deal qui...
Bien, dans les années avant, mes deals sont de plus en plus gros, puis j'ai pas de la liquidité à l'infini. Fait que ça me prenait de l'aide. C'était soit ça ou un prêteur privé. Les banques ne prêtent pas sur du terrain.
Zéro?
Non, zéro, parce que moi, c'est du terrain à moyen long terme. Les banques vont prêter sur 2 à 3 ans maximum.
OK.
Fait que j'ai jamais de banque dans mes deals. Fait que c'est soit prêteur privé et partenaire, ou partenaire ou les deux ensemble. Fait que souvent, c'est les deux ensemble. Fait que j'utilisais beaucoup les prêteurs privés, mais...
Ils doivent coûter cher, eux autres.
Oui, ça coûte cher. Puis il y en a qui ont de la misère à dormir avec des prêteurs privés, mais moi, je suis capable.
Pourquoi? T'sais. Parce qu'ils sont intenses?
Non, mais c'est des gros taux d'intérêt. Fait que quand tu achètes un terrain de, mettons, 20 millions, puis tu as 10 millions de prêts privés à 14 % exemple, c'est 1,4 million d'intérêt par année. Fait que, tu sais, les mois viennent vite, là. Fait que, faut que tu sois capable de vivre avec ça. Là,
mais tu as une structure mentale et comptable qui fonctionne. Parce que pour forecaster les chiffres que tu dis là, faut que tu dises, OK, il faut que j'aie des liquidités, faut que tu le prévois.
Ouais.
Tu dors bien parce que c'est organisé.
Ah oui, mais ça arrive régulièrement, comme c'est arrivé 3 fois que j'avais plus de liquidité. Là.
Un petit hiatus dans le plan de match. Tu vois quoi dans les prochaines années au Québec où est-ce qu'on dit justement les jeunes pourront plus s'acheter, ça va être tough de rentrer dans le marché? Là, on a eu la COVID, on a vu qu'il y a eu une flambée des prix. On donnait de l'argent à 1,5 % d'intérêt. Là, c'est rendu, je pense que le CMB 5A est à 5,5, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une stabilisation du marché ou au contraire, le Québec va continuer de monter parce qu'on est en retard?
C'est toujours l'offre et la demande dans n'importe quoi. Puis il va continuer à manquer de logements et d'unités toujours. Okay? Parce que Trudeau, il fait rentrer des immigrants à pleine pas. Puis on construit pas assez pour juste être capable de la capacité de les accueillir. Fait que les prix vont être en déficit
constamment.
Toujours. On va toujours être en déficit. Fait que on n'a pas assez de main-d'œuvre non plus. OK? Fait que on va toujours être en déficit. Donc, les prix vont continuer à augmenter ou payer. Va stabiliser dans les 2 prochaines années, mais ça va remonter après.
OK.
Puis au niveau des taux d'intérêt, ils vont avoir tendance à redescendre, mais jamais à 1,5 ou peut-être à 1,5, 1,8, mais dans un autre, pas COVID, mais un autre événement quelconque. Ouais. Soit une grosse récession, parce que là, on s'en va en récession, mais c'est la première fois qu'ils parlent de récession avec de l'histoire. C'est la première fois qu'on est en emploi.
Plein emploi. Là.
Plein emploi, c'est ça que je cherchais. Puis, qu'on parle de récession, c'est jamais arrivé. Parce que normalement, une récession, tu es à 18-20 % de taux de chômage.
Mmh, c'est vrai.
Nous, on est à 3,9 au Québec, 4,3 au Canada. C'est jamais arrivé, là. Donc, je pense que ça va être smooth. T'sais, oui, on sera en récession à cause du taux d'intérêt pour contrer l'inflation. C'est juste pour ça, là. Fait que, aussitôt que le taux d'intérêt va rebaisser, mais on verra plus des... T'sais, taux d'intérêt normal, là, c'est comme 3,75. C'est pas...
C'est à l'équilibre.
1,5, ça marche pas. Là, fait que, moi, je pense que ça va revenir autour de ça. Puis le marché va reprendre. Puis les jeunes vont être capables de... C'est sûr que c'est plus cher, mais on est encore moins cher, le marché de Montréal, que Toronto, Vancouver, Calgary.
On était décalé, là.
C'est ça, exact. Fait que, les gens disent, c'est cher. Mais non, c'est pas cher. Aux États-Unis, là... C'est cher en ici dans les grandes villes, là, pas mal plus qu'ici. Là, ton pourcentage de ton revenu qui est à ton logement, c'est pas mal plus gros dans toutes les grandes villes américaines et canadiennes que Montréal.
Tu es concentré quand même sur la rive sud en termes de terrain. Pourquoi la rive sud? Puis est-ce que c'est un immense avantage pour toi d'être aussi concentré dans tes acquisitions de terrain?
Oui, je connais parce que j'habite là, tu sais, d'abord et avant tout. Donc, je connais pas mal toutes les maires, les mairesses, le politique. Je connais aussi les bons deals, les contraintes, etc. Quand tu t'en vas dans un nouveau marché, tu peux pas tout savoir ça. J'ai travaillé un peu à Montréal, bon, le Children, puis le Griffiths, le Rubik, d'autres trucs. Je vais sûrement revenir à Montréal. Je suis en train d'acheter quelque chose actuellement à Montréal. Mais de là à m'éloigner, tu sais, on me propose souvent des projets à l'extérieur du Québec ou aux États-Unis. Puis, tu sais, pourquoi j'ai été dans le terrain, là, c'est parce que mes enfants étaient à l'âge que c'était cool d'être avec eux. Tu sais, j'ai commencé le terrain, là. Mes enfants ont 12, 13 et 19. Le 19, lui, il ne suit plus, là. Mais 12, 13, sont cool que j'ai commencé le terrain, il y a à peu près 7 ans. Ben, c'était l'âge cool que je voulais être avec mes enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de construire. Je voulais être avec mes enfants, être là.
Parlant des enfants, comment ils parce que t'as quand même une image médiatique, puis tu te gênes pas pour l'image de l'argent, tu sais.
Mm-hmm.
Ça, c'est quelque chose que t'as pas le complexe, de ma lecture.
Exact.
Comment tes enfants, surtout les 12-13, gèrent ce volet-là, social même, parce que ton père est riche ou ton père a un avion ou ton père, c'est 240 000. Tu sais, c'est beaucoup de... Ils vont rester sur ces images-là très concrètes.
T'as raison, c'est pas facile. On essaie de leur inculquer des valeurs qui restent simples et tout. Puis je pense qu'on réussit quand même bien. Mon plus vieux, je me souviens, quand j'allais le porter à l'école, il voulait pas qu'il soit associé à moi. Donc, il voulait que je le laisse comme 2-3 rues plus loin.
Ouais.
Donc, tu sais... Sérieusement, mes enfants sont super sains, puis on les garde pas trop, puis ça. Fait que, mais c'est pas facile. C'est pour eux non plus, là, ils se font tout le temps dire que je suis riche, puis que...
Oh oui. Est-ce que ça t'inquiète qu'il n'y ait pas la même victoire? Parce que souvent, on développe nos talents dans... Moi, je pense qu'on grandit dans l'inconfort, tu sais, dans les moments difficiles qu'on vit.
D'accord.
Eux, ils en vivent probablement moins que toi, t'en as vécu dans ta jeunesse. Est-ce que tu le vois comme étant maudit? Comment faire pour leur faire vivre un peu d'adversité?
T'as absolument raison, parce que moi, si je venais pas des HLM, si je n'avais pas eu plein d'intimidation quand j'étais jeune, j'aurais pas la force de caractère de pas avoir peur de frapper à des portes puis de défoncer dans la vie, tu sais. Fait que t'as absolument raison. Comment on est capable d'inculquer ça, c'est pas évident.
Non,
puis, tu sais, on essaye comme, par exemple, ma fille veut poser des questions. Elle me demande, « Ah, peux-tu lui demander ça? » Non, va lui demander toi-même. Des fois, je donne souvent l'exemple au Dolorama. Tu sais, Dolorama, mes enfants, ils aiment encore ça d'aller là,
c'est
à Dolorama.
C'est bon signe,
puis on les emmène des fois.
Tu veux acheter le magasin.
Oui, mais tu vois, c'est ça. Fait qu'on leur dit de choisir juste un truc. Puis là, t'as ma fille qui choisit rapidement. Puis là, t'as mon gars qui prend une demi-heure, ouais. 3-4 affaires dans les mains, puis qui sait pas choix. Qu'est-ce qu'il va prendre? Puis, tu sais, ça serait facile pour un parent de dire, gars, ça coûte 3-4 piastres, là, pas une.
Je vais prendre les deux,
ça, là.
Aller, là.
Mais
là, t'as la madame à la caisse qui prend une photo de Luc Poirier avec ses enfants. Hey, Luc Poirier, qui est pas foutu de dépenser 2 piastres.
C'est un cours d'économie qu'il est en train de faire.
C'est oui, non, c'est ça, exact. Fait que je les oblige à choisir juste un truc, tu sais. Fait que. Mais il n'y a pas de miracle, hein. C'est
non,
pas,
non, je pose la question parce que, tu sais, mon gars, il a 13 ans. Tu sais, je suis pas toi dans la vie, mais c'est une relation avec l'argent qui
mais toi, t'es quand même
fragile,
public aussi, tu sais.
Public, fait que faut faire attention à ça. Puis c'est pas facile pour ces âges-là gérer le parent public, tu sais. Fait que moi je veux pas que je le laisse à l'école parce que je vais klaxonner quand il marche. Mais c'est pas parce que, tu sais...
Je t'aime, mon fils!
Ça arrive, ça aussi.
C'est la grande question qu'on a de nos enfants. Est-ce qu'on est riche? C'est quoi ça, être riche? C'est quoi ta coupe Stanley, toi, Luc Poirier, en date d'aujourd'hui?
En fait, d'être riche, moi, c'est ma famille, ma vraie richesse. Là, je perdrais tout, puis tant que mes enfants sont en santé et tout, c'est ça la vraie richesse là, dans la vie. Là. Puis l'autre vraie richesse, c'est d'être libre de tes choix. Puis, tu sais, oui, je fais beaucoup plus d'argent que la moyenne, mais si je vivais avec moins de besoins d'argent, comme, mettons, mes voitures puis tout ça, bien, je pourrais être riche avec, mettons, un compte de banque de 2 millions, puis... Je vivrais avec mes intérêts, puis je choisirais qu'est-ce que je veux faire. En fait, d'être riche, c'est pour moi, c'est la liberté de choisir, tu sais. Choisir avec qui tu veux être, quand tu veux le faire, tes activités. Tu sais, moi, des fois, j'ai la chance de ne pas avoir vraiment d'employés. Fait que, tu sais, un matin, si je veux m'en aller skier l'hiver, puis que c'était pas prévu, ben je cancelle mon rendez-vous.
T'as pas de garderie à gérer, hein?
Exact. Fait que, je pense que c'est ça, la vraie richesse, c'est la liberté, tu sais. C'est la liberté... Yes.
C'est l'entrepreneur qui parle. Parce que ça, c'est vraiment typique de ce qu'on est. Cette latitude-là du quotidien, c'est l'entrepreneur, c'est la liberté. C'est quelque chose qu'on veut inconsciemment là-dedans.
Oui, parce que à l'origine, là, j'ai pas parti mes business jeunes parce que je voulais être millionnaire. Là. J'ai parti ça parce que je voulais être mon propre boss.
Même jeune? Même jeune, ouais. Tu pensais pas à l'argent?
Non, non, je voulais être mon propre boss. Je voulais pas avoir de boss. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Puis, veux pas, avec la longue, ça a marché, mes trucs. Mais d'abord et avant tout, souvent, là, c'est juste parce que tu veux être libre de ta vie. Là. C'est pour ça que tu pars en affaires. Là.
Mais c'est quand même ironique parce que la liberté met la majeure partie de ton capital est gelé en immobile.
Oui.
Fait que, est-ce que tu te sens libre malgré tout?
Ben oui, parce que, tu sais, c'est comme un employé de l'État qui a un fonds de pension. Ben moi, mon fonds de pension, c'est mes terrains. Fait que je peux...
Ça fait plus que du 6 % par an.
Oui, pas mal plus. Ouais. Pas mal plus. Tu rajoutes au moins un zéro. Ouais. Je fais au moins 60 % par année sur mes trucs. Fait que, ouais.
Tu dis que plus c'est difficile, plus c'est le fun. On a tendance à penser de l'extérieur, des entrepreneurs à succès, que soit qu'ils l'ont facile ou que c'est facile pour eux. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans les projets que tu accomplis? Quelle tâche tu fais « call-in, celle-là, là, est tough » puis c'est le fun? Mais c'est tough pour moi.
Moi, ça a toujours été la gestion des employés. C'est pour ça que
je t'en as pas.
Oui, exact. C'est pour ça. Parce que, veux pas, c'est un peu comme les loyers. Quand j'allais chercher mes loyers, mais tu sais, la personne ne me payait pas. J'avais pitié pour elle. Puis tu sais, je disais, ah, OK, tu me paieras le mois prochain. Mais là, le mois prochain, il devenait 6 mois. Puis là, finalement, j'ai perdu les loyers parce qu'ils s'en allaient. Puis ils démolissaient tout l'appartement.
Mais je te comprends. Il était fâché.
Ben,
c'est ça.
C'est de l'ironie.
Hashtag ironie.
Hashtag ironie, oui.
Mais c'est un peu la même chose pour les employés. C'est que des fois, tu sais, j'ai un grand cœur, tu veux toutes les aider, mais il y en a qui ne s'aident pas. Tu sais, qui te volent, par exemple, puis là, t'es pogné à te voler, là, t'es obligé de les mettre dehors parce que t'as pas le choix de faire un exemple pour les autres. Mais tu sais.
Ouais, l'humain n'est pas facile.
C'est pas facile, là. Moi, je suis pas capable de mettre un employé dehors, tu sais, comme.
Mais dans les projets que tu as maintenant, que tu gères,
qu'est-ce qui est plus dur, c'est le politique.
Ouais. La politique?
Oui,
c'est... parlé tout à l'heure, je connais les maires.
La politique.
À quel point c'est important de connaître les maires?
En fait, c'est pas juste les maires, c'est le conseil de ville. Oui, c'est ça. En fait, la politique de la ville, puis pas juste la ville,
en fait, c'est souvent pas le maire.
C'est ça. Non, c'est ça. C'est souvent pas le maire parce que des fois, il est minoritaire, puis des fois, il y a un conseil, en fait. Là. Puis le conseil suit souvent les citoyens.
Oui.
Fait que même s'ils veulent... Puis on le voit souvent, là, ils veulent aller à quelque part. Ben, les plans, c'est un exemple avec Camillien Hood. Il y a personne qui voulait le fermer, puis là, elle a... Fait que, tu sais, il se...
Elle est partie sur une ballonne un peu. Là.
Ouais. Elle est tant qu'elle parte.
Moi, j'ai une question technique. Il y a souvent des jeunes entrepreneurs avec qui on parle. Tu sais, toi, t'en croises, on en croise. Puis moi, un gars de 20 ans qui a 25 000 dans son compte de banque puis qui veut se partir en affaires, qu'est-ce que tu lui dis?
Ah, écoute, il y a plein
magasin
de
magasin de logiciels, Louis-François.
Ouais, c'est ça.
Non, mais sérieux, il y a plein de possibilités. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, dans le temps de la Saint-Valentin, j'avais loué tous les bas des grands bureaux, Place Ville-Marie, puis tout ça. Puis là, j'avais engagé des jeunes de mon âge, là, puis je leur payais salaire minimum, puis on vendait des fleurs. Mais tu sais, en une journée, en fait, 2 jours, puisque ça durait sur 2 jours la vente, mais tu sais, j'ai fait peut-être 80 000 en 2 jours, là, tu sais, quand j'étais jeune, là, c'est peut-être 200 000 de profit aujourd'hui.
Oui, c'est énorme.
Fait que, il y a plein de trucs, là, tu sais, dans les festivals, mettons, les feux d'artifice de la Ronde, là, tu sais. Dans le temps, écoute, je me promenais avec des bouteilles d'eau, j'achetais des bouteilles d'eau, mettons, au Costco, puis je me promenais des journées chaudes, là, tu sais, quand il fait bien chaud, puis là, je les vendais, mettons, 2 piastres, mais tu sais, ça coûtait 10-12 cents, ouais, là, ouais, la bouteille à l'époque, là. Fait que, tu sais... Tu peux en faire de l'argent. Il y a toutes sortes de façons de faire de l'argent. Avec 25 000, souvent, il y en a qui... Bon, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, là, c'est l'immobilier. Mais l'immobilier avec 25 000, tu fais pas grand-chose. Mais tu peux t'associer avec 3-4 personnes qui ont 25 000 puis tu achètes quelque chose qui a de l'allure. T'es mieux d'avoir des plus petites parts d'un gros projet que d'être tout seul dans un petit projet de rien.
C'est vrai que plus les projets sont gros, moins qu'il y a de compétition, puis plus les rendements sont...
plus d'argent. Oui, c'est ça, exact. Acheter un duplex, tu n'as pas de rendement, sauf si tu l'habites, tu sais. Mais si tu prends, mettons, t'es 4 personnes au lieu de s'acheter un duplex chacun, mais là, t'achètes, tu mets l'argent en commun puis t'achètes un 16 logements, mais là, c'est payant, tandis qu'un duplex, c'est pas payant. Là.
Puis, je serais curieux, dans le fond, ce calcul-là de rentabilité, on t'a vu sur les réseaux sociaux, t'as pris une photo avec ton avion que t'as acheté. Quand est-ce que dans...
C'était-tu vrai, ça?
Puis, la rumeur veut que celui de Réal Bouclain est à vendre, d'ailleurs. Ben, non, c'est une
blague. Il l'a vendu, je pense.
Ah, il l'a déjà vendu.
Ouais, je pense que...
C'est sûrement une bonne décision. Quand est-ce que dans le calcul de rentabilité, retour sur investissement, vient de dire, ben avec mon horaire du temps, avec ce que je veux accomplir, un avion, ça fait du sens.
En fait, l'avion, c'est personnel parce que je n'utilise pas vraiment...
Business, mais non, business.
Tout est... Je fais pas de business à l'extérieur.
Tu fais Candiac-Saint-Jean-sur-Richelieu avec ton avion.
C'est ça. Donc, c'est juste personnel. Est-ce que ça fait du sens? Aucunement. Ça n'a aucun sens. Mais à un moment donné, dans la vie, tu sais, il y en a qui, comment je pourrais dire, qui accumulent l'argent pour en donner à leurs enfants. Moi, j'ai pris des grosses assurances-vie, puis dans ma tête, à moi, c'est je vais dépenser tout mon argent avant de mourir, puis mes enfants auront l'assurance-vie. Puis
okay, c'est vrai.
Ouais, c'est une autre mentalité complètement différente, mais tu sais, la vieille mentalité de la génération avant moi, ben ils accumulaient, ils travaillaient comme des fous. Puis là, ils arrivaient à leur retraite, puis là, ils tombaient malades parce qu'ils n'étaient pas habitués de rien faire, puis là, tous les bobos sortent là, à 65 ans. Fait que ma philosophie, c'est... J'ai pris des grosses assurances-vie, là. J'ai 300 millions d'assurances-vie, là. J'en ai en masse, là. Fait que moi, s'il m'arrive que je meurs, ben, même si j'ai tout dépensé de mon vivant, c'est pas grave, là.
Ça va.
C'est ça. C'est
clair. On va mettre fin à l'entrevue sur cette belle note. 300 millions d'assurances-vie. Je trouve que c'est comme un chiffre. Je m'attendais, grosse assurance-vie, là, j'ai comme 20 millions, 25 millions. T'es comme, t'es allé next level. Merci beaucoup, Luc Poirier.
Vas-y.
Puis là, tout de suite après, c'est la question dérangeante. Fait que si tu restes avec nous, tu vas être obligé d'y répondre.
Pas de problème. Capable.
Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blouet Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
Et c'est le moment de la question dérangeante. Vous êtes prêts, les gars?
Let's go!
Question dérangeante aujourd'hui. Vous vendez votre entreprise, mais vous revenez un an plus tard avec toutes les parts, mais le monde n'est plus là. L'entreprise est encore là. C'est quoi votre premier move? Qu'est-ce que vous faites en premier?
Mais la question, c'est je reviens comme actionnaire, comme président?
Actionnaire. Tous les contrôles.
OK. Fait que c'est vraiment spécial. C'est le cas de Steve Jobs, en fait, qui avait été licencié de Apple, qui a été faire Pixar, puis qui est revenu. Puis tu vois, moi, même si on peut dire que c'est un sociopathe, le gars, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli. Son premier move, ça a été je vais attendre. Tu sais, what's going to be your next big move? Il dit, I'll see. Ah oui, il n'est pas revenu en disant « je vais faire le iPod ». Il dit « je vais regarder c'est quoi la prochaine vague, puis je vais vraiment… » Tu sais, le 90 jours où est-ce que tu fais juste rien changer là, pour que les gens t'adoptent et finalement t'aiment, il dit ça aussi. Non, c'est les 100 premiers jours d'un mandat présidentiel. Fais rien. Regarde, observe.
Il dit ça?
Oui. C'est vraiment c'est pour éviter, dans le fond, les clashs sociétales puis la polarisation. C'est une recommandation souvent que les 100 premiers jours, il ne faut pas qu'il y ait trop de changements.
OK. Étienne Fourier.
Ben moi, c'est simple, j'ai pas vraiment d'employé. Donc, si je reviens, je vais
voir le café.
Il
est content. Moi, j'ai souvent des business d'opération. Fait que pour moi, c'est de retourner sur le plancher. C'est de dire, je vais retourner sur le plancher des vaches, je vais aller faire des cafés, je vais rentrer dans les restaurants, d'être là, présent physiquement. L'humain se rallie à ça. Puis souvent, on va donner un exemple positif quand on est là, parce que là, on est humainement proche d'eux autres, puis ça rend ça plus valable.
C'est l'idée donc, par là, l'exemple.
Oui, fait qu'ils vont suivre beaucoup après. Tu sais, ton leadership augmente dans ce temps-là.
Moi, je pense que j'ai tendance à lancer trop de projets tout le temps, puis ça dilue un peu le talent, ça dilue l'effort. Fait que si ça m'arrivait, je pense que je me dirais, avant de revenir, focus sur un des projets. L'opportunité qui a le plus d'impact puis le plus de rentabilité, puis abandonne le reste. Elle a le courage d'abandonner le reste.
Oui, mais si t'en fais juste un, puis il va mal, t'es mieux d'en avoir deux, trois, non?
Oh, si ta gang n'est pas d'accord.
Tu sais, quand t'as une entreprise, puis t'as 10 personnes qui travaillent sur 3 initiatives, à un moment donné, c'est comme...
Oui.
Tes chances de succès sont diluées aussi.
Moi, dans le terrain, tout le temps, je préfère avoir moins de parts de 9 terrains, 10 terrains, que d'en avoir juste un.
Oui, mais moi, je suis pas dans le terrain.
Bon. Okay. Faut pas que t'es dans le terrain, clairement.
Luc Poirier, Louis-François Marcotte, Étienne Crevier.
Merci les gars.
Merci.
Et voilà la maison. Vous pouvez nous voir sur YouTube, évidemment, et nous écouter sur toutes les plateformes de balado, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel au info@commercialesderangeants.com. À bientôt tout le monde pour un prochain épisode.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!